Salut. Comblé. Ma plainte de la dernière fois, à savoir de n'avoir pas encore pu connaître le terme russe qui correspondait à ce morceau, je dois la connaissance à M. Kaufmann. J'y reviendrai d'ailleurs. C'est M. Kaufmann lui-même qui, quoiqu'il ne soit pas russophone, m'a amené aujourd'hui le terme exact que je vais demander à Smirnov, par exemple, entre autres, comme russophone, de bien vouloir rapidement commenter. Je veux dire, enfin, chose à peine articulée, ces vocables, je n'en ai pas la phonologie. Alors, énoncer qu'il s'agit donc, dans le titre, de Strachy, qui est le pluriel de Strach. Lequel Strach, comme tous les mots concernant la crainte, la peur, l'angoisse, la terreur, les affres, nous pose de très difficiles problèmes de traduction. C'est un petit peu, j'y pense, une improvisation, j'y pense à l'instant, comme ce qu'on a pu soulever à propos du problème des couleurs, dont sûrement la connotation ne se recouvre pas d'une langue à l'autre. La difficulté, je voulais déjà signaler que nous avons à saisir le terme qui pourrait répondre à angoisse précisément, puisque c'est de là que partent tous nos soucis, en russe, le montre bien. Quoi qu'il en soit, si j'ai bien cru comprendre, à travers les débats qu'ont soulevé entre les russophones qui sont ici, qu'a soulevé ce mot, il apparaît que, de toute façon, ce que j'avançais la dernière fois était correct, à savoir que Tchekhov n'avait pas entendu par là parler de l'angoisse. Là-dessus, je reviens à ce que je désirais rendre à Kaufmann. C'est très exactement ceci, donc. Je me suis servi de cet exemple la dernière fois pour éclairer, si je puis dire, d'une façon latérale, ce dont je désirais devant vous opérer, enfin le renversement, à savoir que, pour introduire la question, je disais qu'il serait tout aussi légitime de dire en somme que la peur n'a pas d'objet, et comme moi je l'ai annoncé, comme je l'avais d'ailleurs déjà fait auparavant, que l'angoisse, elle, n'est pas sans objet, ça avait un certain intérêt pour moi. Mais il est évident que ça n'épuise absolument pas la question de ce que sont ces peurs ou frayeurs ou affres, tout ce que vous voudrez, qui sont désignées dans les exemples de Chekhov. Or, comme je ne pense pas que ce soit le trahir, M. Kaufmann a le souci d'articuler quelque chose de tout à fait précis et centré justement sur ces frayeurs chekhoviennes, je crois qu'il apporte de souligner que je n'en ai fait donc qu'un usage latéral et en quelque sorte dépendant par rapport à celui qu'il sera amené lui-même dans un travail à faire plus tard. Et là-dessus, je crois que, avant de commencer encore, vous ferez bénéficier d'une petite trouvaille. C'est aujourd'hui, d'ailleurs, M. Kaufmann, qui n'est pas russophone, c'est qu'au cours de cette recherche, il a trouvé un autre terme, le terme le plus commun pour « je crains », qui est « boyus », paraît-il. C'est le premier mot que vous voyez là. Écrit dans ces deux phrases. Et alors, à ce propos, il s'est amusé à s'apercevoir que, si je ne me trompe, en russe comme en français, la négation dite explétive, celle sur laquelle j'ai mis tellement d'accent, puisque je n'y trouve rien moins que la trace signifiante, dans la phrase de ce que j'appelle le sujet de l'énonciation, distinct du sujet de l'énoncé, qu'en russe aussi, il y a dans la phrase affirmative, je veux dire la phrase qui désigne à l'affirmatif l'objet de ma crainte, ce que je crains, ce n'est pas qu'il ne vienne, c'est qu'il vienne. Et je dis qu'il ne vienne en quoi? En quoi je me trouve confirmé par le russe à dire qu'il ne suffit pas de qualifier ce nœud explétif de discordantiel. C'est-à-dire de marquer la discordance qu'il y a entre ma crainte, puisque je crains qu'il vienne, j'espère qu'il ne viendra pas. Eh bien, il semble, d'après le russe, que nous voyons qu'il faut accorder encore plus de spécificité, et ça va bien dans le sens de la valeur que je lui donne, à ce nœud explétif, à savoir que c'est bien le sujet de l'énonciation comme tel qu'il représente et non pas simplement son sentiment. Car, si, comme toujours, j'ai bien entendu tout à l'heure, la discordance en russe est déjà indiquée par une nuance spéciale. À savoir que le shtob qui serait là est déjà en lui-même un que-ne, mais marqué par une autre nuance, si j'ai bien entendu Smirnov, le B qui distingue ce shtob du que simple, du shtob qui est dans la seconde phrase, ouvre, indique, nuance le verbe d'une sorte d'aspect conditionnel. Sauf que cette discordance, en somme, est déjà marquée au niveau de la lettre P, que vous voyez ici. Ce qui n'empêche pas que le ne de la négation, encore plus explétive, donc, du simple point de vue du signifié, en russe, fonctionne quand même. En russe comme en français, laissant donc ouverte la question de son interprétation, dont je viens de dire comment je la résume. Voilà, et maintenant, comment vais-je entrer en matière aujourd'hui? Je vous dirais que ce matin, assez remarquablement, en pensant à ce que j'allais ici produire, je me suis mis tout d'un coup à évoquer le temps où un de mes analysés les plus intelligents, il y en a toujours, de cette espèce me posait avec insistance la question: qu'est-ce qui peut vous pousser à vous donner tous mal pour leur raconter ça? C'était dans les années arides où la linguistique, voire le calcul des probabilités, tenait ici quelques places. D'autres termes, je me suis dit qu'après tout, ce n'était pas non plus un mauvais biais pour introduire le désir de l'analyste que de rappeler qu'il y a une question du désir de l'enseignant. Je ne vous n'en donnerez pas, et pour cause, ici le mot. Mais il est frappant que quand une ébauche de culpabilité que j'éprouve au niveau de ce qu'on peut appeler la tendresse humaine, quand il m'arrive de penser aux tranquillités auxquelles j'attente, j'avance volontiers l'excuse, vous l'avez vu pointer plusieurs fois, que, par exemple, je n'enseignerais pas s'il n'y avait pas eu la scission. C'est pas vrai. Enfin, évidemment, j'aurais aimé me consacrer à des travaux plus limités, voire plus intermittents. Mais pour le fond, ça ne change rien. En somme, qu'on puisse poser la question du désir de l'enseignant à quelqu'un, je dirais que c'est le signe, comme dirait M. de la Palice, que la question existe. C'est aussi le signe qu'il y a un enseignement. Ceci nous introduit en fin de compte à cette curieuse remarque que là où on ne se pose pas la question, c'est qu'il y a le professeur. Le professeur existe chaque fois que la réponse à cette question est, si je puis dire, écrite. Écrite sur son aspect ou sur son comportement. Dans cette sorte de conditionnement qu'on peut situer au niveau, en somme, de ce qu'en analyse nous appelons le préconscient, c'est-à-dire de quelque chose qu'on peut sortir, d'où que ça vienne, des institutions ou même ce qu'on appelle de ses penchants. N'est pas à ce niveau inutile de s'apercevoir qu'alors le professeur se définit comme celui qui enseigne sur les enseignements. Autrement dit, il découpe dans les enseignements. Si cette vérité était mieux connue, qu'il s'agit en somme au niveau du professeur de quelque chose d'analogue au collage, si cette vérité était mieux connue, cela leur permettrait d'y mettre un art plus consommé, dont justement le collage, qui a pris son sens dans l'œuvre d'art, nous montre la voie. C'est savoir que s'ils faisaient leur collage d'une façon moins soucieuse du raccord, moins tempérée, ils auraient quelques chances d'aboutir au même résultat à quoi vise le collage, d'évoquer proprement ce manque qui fait toute la valeur de l'œuvre figurative elle-même, quand elle est réussie, bien entendu. Et par cette voie, donc, ils arriveraient à rejoindre l'effet propre de ce qu'est justement un enseignement. Voilà, ceci, donc, pour situer, voire rendre hommage, à ceux qui veulent bien prendre la peine voir par leur présence de ce qui s'enseigne ici, non seulement leur rendre hommage, Mais les remercier de prendre cette peine. Là-dessus, moi-même, je vais, puisque aussi bien j'ai quelquefois affaire à des auditeurs qui ne viennent ici que de façon intermittente, de bien me faire pour un instant le professeur de mon propre enseignement. Et puisque la dernière fois, je vous ai apporté des éléments que je crois assez massifs, de rappeler ces points majeurs de ce que j'ai apporté la dernière fois. Partant donc de la distinction de l'angoisse et de la peur, j'ai, comme je venais de vous le rappeler à l'instant, tenté, au moins comme premier pas, de renverser l'opposition où s'est arrêtée la dernière élaboration de leur distinction actuellement pour tout le monde reçue. Certainement pas dans le sens de la transition de l'une à l'autre que va le mouvement. S'il en reste des traces dans Freud, ce ne peut être que par erreur qu'on lui attribuerait l'idée de cette réduction de l'un à l'autre. Une erreur fondée sur ce que je vous ai rappelé, qu'il y a chez lui justement l'amorce de ce qui est en réalité ce renversement de position, en ce sens qu'il dit justement, malgré qu'à tel détour de phrase le terme objectlos puisse revenir, il dit que l'angoisse est angst vor etwas. Angoisse devant quelque chose. Ce n'est certes pas pour la réduire à être une autre forme de la peur, puisque ce qu'il souligne, c'est la distinction essentielle de la provenance de ce qui provoque l'une et l'autre. C'est donc bien du côté du refus de toute accentuation pour isoler la peur de l'entgegenstehen, de ce qui se pose devant, et de la peur comme une réponse entgegen. C'est ce que j'ai dit au passage concernant la peur à être retenu. Par contre, c'est bien à rappeler d'abord que dans l'angoisse, le sujet, ai-je dit, est étreint, concerné, intéressé, au plus intime de lui-même, que nous voyons simplement sur le plan phénoménologique déjà l'amorce de ce que j'ai essayé plus loin d'articuler d'une façon précise. J'ai rappelé à ce propos le rapport étroit de l'angoisse avec tout l'appareil de ce que nous appelons défense. Et sur cette voie, j'ai repointé, pour l'avoir déjà articulé, préparé de toutes les façons, que c'est bien du côté du réel, première approximation que nous avons à chercher de l'angoisse, ce qui ne trompe pas. Ce n'est pas dire que le réel épuise la notion de ce que vise l'angoisse. Ce que vise l'angoisse dans le réel, ce par rapport à quoi elle se présente comme signal, c'est ce que j'ai et j'essayais de vous montrer la position dans le tableau. La division signifiant l'X d'un sujet primitif va vers son avènement, c'est-à-dire son avènement comme sujet, le rapport. J'ordonne, selon la figure d'une division, le sujet S par rapport au grand A de l'autre, ceci, que c'est par cette voie de l'autre que le sujet a à se réaliser. Ce sujet, je vous l'ai laissé indéterminé quant à sa dénomination. Dans la première position, de ces colonnes de la division, dans les autres termes, se sont trouvés posés dans les formes que j'ai déjà commentées, que j'inscris ici. La fin de mon discours, je pense, vous a suffisamment permis de reconnaître comment pourrait être à ce niveau mythique. Préalable à tout ce jeu de l'opération, être dénommé. C'est le sujet, en tant que ce terme est un sens, et justement, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, on ne peut d'aucune façon l'isoler comme sujet. Mais mythiquement, nous l'appellerons aujourd'hui sujet de la jouissance, car comme vous le savez, comme je l'ai écrit ici la dernière fois, les trois étages auxquels répond les trois temps de cette opération sont respectivement la jouissance, l'angoisse et le désir. C'est dans cet étagement que je vais aujourd'hui m'avancer pour montrer la fonction, non pas médiatrice, mais médiane de l'angoisse, entre la jouissance et le désir. Comment pourrions-nous encore commenter ce temps important de notre exposé, sinon on a dit. Ceci, quand je vous prie, de prendre les divers termes avec le sens le plus plein à leur donner, que la jouissance ne connaîtra pas l'autre grand A, sinon par ce reste petit A. Que dès lors, pour autant que je vous ai dit que il n'y a aucune façon d'opérer avec ce reste. Et donc, que ce qui vient à l'étage inférieur, c'est-à-dire dans l'avènement de la fin de l'opération, savoir le sujet barré, le sujet en tant qu'impliqué dans le fantasme. Entendons qu'il est un des termes qui constitue le support du désir. Je dis seulement un des termes, car le fantasme est dans un certain rapport d'opposition à petit A, rapport dont la polyvalence, la multiplicité est suffisamment désignée
caractère composé du losange, qui est aussi bien la disjonction que la conjonction, qui est aussi bien le plus grand que le plus petit, est barré. En tant que terme, cette opération a forme de division, puisque petit a est irréductible, ne peut, dans cette façon de l'imager dans les formes mathématiques, ne peut représenter que le rappel. Que si la division se faisait, ce serait plus loin. Ce serait le rapport de petit a à s serait dans le s barré intéressé. Qu'est-ce à dire? Que pour ébaucher la traduction de ce que je désigne ainsi, on pourrait suggérer que petit a vient à prendre une sorte de fonction de métaphore du sujet de la jouissance. Pas, ça ne serait juste que si petit a est dans la mesure où petit a est assimilable à insignifiant. Et justement, c'est ce qui résiste à cette assimilation à la fonction du signifiant. C'est bien pour cela que petit a symbolise que dans la sphère du signifiant est toujours ce qui se présente toujours comme perdu, comme ce qui se perd à la significantisation. Or, c'est justement ce déchet, cette chute, résiste à la significantisation qui vient à se trouver constitué le fondement comme tel du sujet désirant. Non plus le sujet de la jouissance, mais le sujet en tant que sur la voie de sa recherche. En tant qu'il jouit, qui n'est pas recherche de sa jouissance, mais ce vouloir de faire entrer cette jouissance au lieu de l'autre, comme lieu du signifiant, c'est là. Sur cette voie que le sujet se précipite, s'anticipe comme signifiant. Je fais pas lapsus. S'anticipe comme désirant. Or, il y a ici précipitation, anticipation. Ce n'est pas dans le sens que cette démarche sauterait, irait plus vite que ses propres étapes. C'est dans le sens qu'elle aborde en deçà de sa réalisation. Cette béance du désir à la jouissance, c'est là que se situe l'angoisse, et ceci est si sûr que le temps de l'angoisse n'est pas absent, comme le marque, façon d'ordonner les termes, dans la constitution du désir, même si ce temps est évité, non repérable dans le concret, il est essentiel. Je vous prie, pour ceux à qui j'ai besoin ici, de suggérer une autorité pour qu'ils se fient à ce que je ne fasse point d'erreur, de se souvenir à ce propos de ce que l'on a dans l'analyse de Heinkin Dirkeschlagen, dans la première analyse non seulement structurale mais dynamique du fantasme donnée par Freud, dit justement lui aussi d'un second temps, toujours élidé dans sa constitution, tellement élidé que même l'analyse ne peut que le reconstruire. Ce n'est pas dire qu'il soit toujours aussi inaccessible. Ce temps de l'angoisse à bien des niveaux est phénoménologiquement repérable. Je dis de l'angoisse en tant que terme intermédiaire. Entre la jouissance et le désir, en tant que franchi l'angoisse, fondé sur le temps de l'angoisse, que le désir se constitue. Il reste que la suite de nos discours a été faite pour illustrer ceci, qu'au cœur, ceci dont on s'était aperçu depuis longtemps, mais nous ne savons pas faire pleinement notre profit quand il s'agit pour nous de comprendre à quoi répond ce qui prend dans notre discours d'analyste une toute autre valeur, le complexe de Castrat. Au cœur, dis-je, de l'expérience du désir, il y a ce qui reste quand le désir est, entre guillemets, satisfait. Ce qui reste, si l'on peut dire, à la fin du désir. Fin. Il y a toujours une fausse fin. Fin. Qui est toujours le résultat d'une méprise. La valeur que prend, que vous me permettrez de télescoper, dans ce que j'ai la dernière fois suffisamment articulé à propos de la détumescence. C'est à savoir ce que manifeste, ce que représente de cette fonction du reste le phallus à l'état flappy, et cet élément synchronique, tout bête comme chou, même comme la tige d'un chou, comme s'exprime Petron, est là pour nous rappeler que l'objet choix du sujet, essentiellement, dans sa relation au désir, que l'objet soit dans cette chute, c'est là une dimension qu'il convient essentiellement d'accentuer si nous voulons franchir ce petit pas de plus auquel ce désir vous amène aujourd'hui, c'est-à-dire qui pouvait, avec un peu d'attention, déjà vous apparaître la dernière fois dans mon discours, à partir du moment où j'ai essayé de montrer quelle forme s'incarne cet objet, petit A, du fantasme, support du désir. Que il ne vous a pas frappé que je vous ai parlé du sein ou des yeux en les faisant partir de Zurbaran, de Lucie et d'Agathe. Ces objets petit a se présentent sous une forme, si je puis dire, positive. Ce sein et ses yeux que je vous ai montrés là sur le plat où les supportent les deux dignes saintes, voire sur le sol amer où se portent les pas d'Édipe, ils apparaissent ici avec un signe différent de ce que je vous ai montré ensuite dans le phallus, comme spécifié par le fait qu'à un certain niveau de l'ordre animal, la jouissance coïncide avec la détumescence, vous faisant remarquer qu'il n'y a là rien de nécessaire. De nécessaire ni de lié à la Wesenheit de l'organisme, au sens holsteinien. Au niveau du petit a, c'est parce que le phallus entend qu'il est dans la copulation, non pas seulement instrument du désir, mais instrument fonctionnant d'une certaine façon à un certain niveau animal, c'est pour ceci que lui se présente en la fonction de petit a avec le signe moins. Ceci est essentiel à bien articuler, à différencier ce qui est important. L'angoisse de castration de ce qui fonctionne chez le sujet à la fin d'une analyse, quand ce que Freud désigne comme menace de castration s'y maintient, s'il y a quelque chose qui nous fasse toucher du doigt que c'est là un point dépassable, qu'il n'est pas absolument nécessaire que le sujet reste suspendu quand il est mâle à la menace de la castration, suspendu quand il est de l'autre sexe au pénis naïve, c'est justement cette distinction pour savoir comment nous pourrions le franchir, ce point limite. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi l'analyse menée dans une certaine direction aboutit à cette impasse. Par quoi le négatif qui marque dans le fonctionnement physiologique de la copulation chez l'être humain se trouve promu au niveau du sujet sous la forme d'un manque irréductible. C'est ce qui est à retrouver comme question. Comme direction de notre voie par la suite, mais je crois ici important de l'avoir marqué. Ce que j'ai apporté ensuite, lors de notre dernière rencontre, c'est l'articulation de deux points très importants concernant le sadisme et le masochisme. Donc, je vous résume ici l'essentiel. L'essentiel tout à fait capital à maintenir, à soutenir, pour autant qu'à vous y tenir, vous pouvez donner leur plein sens à ce qui s'est dit de plus élaboré, dans l'état actuel des choses concernant ce dont il s'agit, à savoir le sadisme et le masochisme. Ce qu'il y a à retenir dans ce que j'ai là énoncé concerne d'abord le masochisme, dont vous pourrez voir que si les auteurs ont vraiment beaucoup aimé, au point de mener très loin, si loin qu'une lecture que j'ai faite récente, ici, a pu moi-même me surprendre. Je dirai tout à l'heure un auteur qui a mené les choses à ma surprise, je dois dire, et à ma joie, aussi près que possible du point où j'essaierai cette année concernant le masochisme, pris cet angle qui est notre ici, de vous mener. Il reste que cet article même, dont je vous donnerai tout à l'heure le titre, reste comme tous les autres. Strictement incompréhensible. Pour la seule raison que déjà, au départ, il est en quelque sorte comme édité, non vu, parce que là, enfin, absolument, sous le nez, si l'on peut dire de l'évidence, ceci que je vais énoncer à l'instant. On essaie, on arrive à se déprendre, de mettre l'accent sur ce qui, premier abord, heurte le plus notre finalisme, à savoir qu'intervient la fonction de la douleur. Ceci, on est arrivé à bien comprendre que ce n'est pas là l'essentiel. Aussi, arrivé, Dieu merci, dans une expérience comme celle de l'analyse, à s'apercevoir que l'autre est visé. Dans le transfert, on peut s'apercevoir que les manœuvres là-dessus se situe à un niveau qui n'est pas sans rapport avec l'autre. Naturellement, beaucoup d'auteurs en profitent à se tenir là pour tomber dans un insight dont le caractère superficiel saute aux yeux. Quelque maniable que se soit révélé certains cas à n'être parvenu qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que la fonction du narcissisme, sur lequel a mis l'accent un auteur d'ailleurs, non sans certain talent d'exposition, Ludwig Heidelberg, puisse être quelque chose qui ne suffit. Ce que, sans du tout vous avoir fait pour autant pénétrer dans la structure, comme nous serons amenés à le faire, du fonctionnement du masochisme, ce que simplement j'ai voulu accentuer la dernière fois parce que c'est la lumière qui éclairera les détails du tableau d'un tout autre jour, c'est de vous rappeler ce qui se donne apparemment tout de suite. C'est pour cela que ce n'est pas appris dans la visée du masochisme. Dans l'accès le plus banal à cette visée, pourquoi nous le refuser? C'est que le masochisme vise la jouissance de l'autre. Et ce que j'ai accentué la dernière fois comme autre terme, ce entre quoi j'entends tendre, tout ce qui permettra de déjouer, si l'on peut dire, sa manœuvre, c'est que ce qui est caché par cette visée, c'est que ce qu'il vit, ce qu'il veut, ceci, bien sûr, étant le terme éventuel de notre recherche, pourra, si vous voulez, se justifier pleinement d'une vérification des temps qui prouvent que c'est là le dernier terme. Le dernier terme est ceci. Et que ce qu'ils vivent, c'est l'angoisse de l'autre. J'ai dit d'autres choses que j'entends vous rappeler aujourd'hui, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il y a là-dedans d'irréductible, à quoi il faut tenir, au moins jusqu'au moment où vous pourrez, de ce que j'ai autour de cela à ordonner, où vous pourrez en juger. Côté du sadisme, par une remarque entièrement analogue, à savoir que le premier terme était l'idée, et qu'il a pourtant la même évidence que du côté du masochisme. C'est que ce qui est visé dans le sadisme, de toutes ses formes, à tous ses niveaux, quelque chose aussi qui promeut la fonction de l'autre, et que justement là, ce qui est patent, ce qui est cherché, c'est l'angoisse de l'autre. De même que dans le masochisme, ce qui est par là masqué, c'est non pas par un processus inverse, de renversement, jouissance de l'autre, de sa sadisme n'est pas l'envers du masochisme, pour une simple raison. Ce n'est pas un couple de réversibilité. La structure est plus complexe, j'y insiste, quoiqu'aujourd'hui n'isole dans chacun que deux termes. Pour illustrer, si vous voulez, ce que je veux dire, je dirais que, comme vous pouvez le présumer, d'après l'un de mes schémas essentiels, ce sont des fonctions à quatre termes, ce sont, si vous voulez, des fonctions carrées, et que le passage de l'un à l'autre se fait par une rotation au quart de tour, et non par aucune symétrie ni inversion. Si vous ne le voyez pas apparaître au niveau que maintenant je vous désigne, mais ce que je vous ai indiqué la dernière fois, qui se cache derrière cette recherche de l'angoisse de l'autre, c'est dans le sadisme la recherche de l'objet, petit a. C'est à quoi amener comme référence un terme expressif pris dans les fantasmes sadiens. Dans le texte de l'œuvre de Sade, je ne vous le rappelle pas maintenant. Nous nous trouvons donc entre sadisme et masochisme, en présence de ce qui, au niveau second, au niveau voilé, au niveau caché de la visée de chacun, chacune de ces deux tendances, se présente comme l'alternance, en réalité l'occultation réciproque de l'angoisse dans le premier cas, de l'objet petit a dans l'autre. Je termine par un bref rappel qui revient en arrière sur ce que j'ai dit justement de ce petit a, de cet objet, à savoir l'accentuation de ce que je pourrais appeler le caractère mammifère, essentiellement, que nous connaissons bien, encore que nous ne nous apercevions pas de son importance, le caractère mammifère, dont est marqué quoi ? Le mode sous lequel entre cette anatomie dont Freud a tort de dire qu'elle est sans autre précision le destin. C'est la conjonction d'une certaine anatomie, celle que j'ai essayé de vous caractériser la dernière fois au niveau des objets petit a, par l'existence de ce que j'ai appelé les caducs, à savoir justement ce qui n'existe qu'à un certain niveau, le niveau mammifère, parmi les organismes, la conjonction de ces caducs avec quelque chose qui est effectivement le destin, à savoir l'ananke, par quoi la jouissance va à se confronter avec le signifiant, c'est là le ressort. La limitation, c'est l'homme. À quoi est soumise destinée, du désir. À savoir, cette rencontre avec l'objet dans une certaine fonction, pour autant que cette fonction le localise, précise, à ce niveau que j'ai appelé de l'existence des caducs et de tout ce qui peut servir comme ces caducs, terme qui nous servira entre autres à mieux explorer, je veux dire, à espérer donner un catalogue exhaustif des limites, des frontières, des moments de coupure où l'envoi peut être attendu et de confirmer que c'est bien là qu'elle émerge. Je vous le rappelle, j'ai terminé sur le rappel par un exemple clinique et plus connu sur le rappel de la connexion étroite sur laquelle nous aurons à revenir et qui est beaucoup moins de ce fait accidentel qu'on ne le croit sur la conjonction, dis-je, de l'orgasme et de l'angoisse, en tant que l'un et l'autre ensemble peuvent être définis par une situation exemplaire, celle que j'ai définie sous la forme d'une certaine attente de l'autre, et d'une attente qui n'est pas n'importe laquelle, celle qui, sous la forme de la copie blanche ou pâle, doit remettre à un moment le candidat, est un exemple absolument saisissant de ce que peut être pour un instant pour lui le petit pas. Alors, après tous ces rappels, essayez de nous avancer un peu plus loin. Je le ferai par une voie qui n'est peut-être pas, je l'ai dit tout à fait celle, à laquelle je me serais de moi-même résolu. Vous verrez ensuite ce que par là j'entendis. Il y a quelque chose que je vous ai fait remarquer à propos du contre-transfert, c'est à savoir combien les femmes semblaient s'y déplacer plus à l'aise. N'en doutez pas, si elles s'y déplacent plus à l'aise dans leurs écrits, théoriquement, c'est, je présume, qu'elles ne s'y déplacent pas mal non plus dans la pratique. Même si elle n'en voit ou n'en articule, car là-dessus, après tout, pourquoi ne pas leur faire le crédit d'un petit peu de restriction mentale, si elle n'en articule pas d'une façon tout à fait évidente et tout à fait claire, le ressort. Il s'agit, bien évidemment, ici, d'attaquer
quelque chose qui est de l'ordre du ressort. Du désir à la jouissance. Notons d'abord ceci, que il semble à nous référer à de tels travaux que la femme comprennent très très bien ce qu'est le désir de la nature. Comment ça se fait-il Il est certain qu'il ne faut ici reprendre les choses au point où je les ai laissées par ce tableau, vous disant que l'angoisse fait le médium du désir à la jouissance. J'apporterai ici quelques formules où je laisse à chacun de se retrouver par son expérience. Elles seront aphoristiques. Il est facile de comprendre pourquoi. Sur un sujet aussi délicat que celui toujours pendant ici, des rapports de l'homme et de la femme, articuler tout ce qui peut rendre licite, justifier la permanence d'un malentendu, obligé, ne peut qu'avoir l'effet tout à fait rabalant de permettre à chacun de mes auditeurs de noyer ces difficultés personnelles qui sont très en deçà de ce que je vais ici citer dans l'assurance que ce malentendu est structural. Or, comme vous le verrez si vous savez m'entendre, parler de malentendu ici n'équivaut nullement à parler d'échec nécessaire. On ne voit pas pourquoi, si le réel est toujours sous-entendu, la jouissance la plus efficace ne pourrait pas être atteinte par les voies même du malentendu. De ces aphorismes, donc, je choisirai. Je dirais forcément, c'est la seule chose qui distingue l'aphorisme du développement doctrinal, c'est qu'il renonce à l'ordre préconçu. J'avancerai ici quelques formes. Par exemple, celle-ci, qui peut vous parler d'une façon, si l'on peut dire, moins sujette à ce que vous vous rouliez dans le ricanement. Telle formule, que seul l'amour
permettre à la jouissance de condescendre au désir. Nous en avancerons aussi quelques autres qui se déduisent de notre petit tableau où se montre que petit a, comme tel, et rien d'autre, c'est l'accès, non pas à la jouissance, mais à l'autre. Que c'est tout ce qui en reste à partir du moment où le sujet veut y faire dans cet autre son entrée. Ceci, enfin, pour dissiper, il semble, au dernier terme, ce terme, ce fantôme empoisonnant, depuis l'an 1927, de l'oblativité, inventée par le grammairien Pichon. Dieu sait que je reconnais le mérite dans la grammaire. Dont on ne saurait trop regretter qu'une analyse, si je puis dire, absente, l'est entièrement livré dans l'exposé de la théorie psychanalytique, mais entièrement laissé capturer dans les idées qu'il avait préalablement, qui n'étaient autres que les idées borassiennes. Quand S ressort de cet accès à l'autre, il est l'inconscient, c'est-à-dire ça, l'autre barre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne lui reste qu'à faire de A quelque chose. Donc c'est moins la fonction métaphorique qui importe que le rapport de chute où il va se trouver par rapport à ce petit A. Désirez donc l'autre grand A, ça n'est jamais. Désirez que petit A. Il reste, puisque c'est de l'amour que je suis parti dans mon premier aphorisme, que pour traiter de l'amour, comme pour traiter de la sublimation, il faut se souvenir de ce que les moralistes, qui étaient déjà avant Freud, je parle de ceux de la bonne tradition, et nommément de la tradition française, celle qui passe par ce que je vous ai rappelé de sa scansion dans l'homme du plaisir, que ce que les moralistes ont déjà pleinement articulé, et donc il convient que nous ne considérions pas l'acquis comme dépassé, que l'amour est la sublimation du désir. Il en résulte que nous ne pouvons pas du tout nous servir de l'amour comme premier ni comme dernier terme. Tout primordial qui se présente dans notre théorisation, l'amour est un fait culturel. Et comme l'a fort bien articulé La Rochefoucauld, ce n'est pas seulement combien de gens n'auraient jamais aimé s'ils n'en avaient entendu parler, il ne serait pas question d'amour s'il n'y avait pas la culture. Ceci doit nous inciter à poser ailleurs les arches de ce que nous avons à dire concernant, puisque c'est de cela qu'il s'agit, point, je vous le dis, je vous mène, soulignant que ce détour aurait pu se produire ailleurs, et j'en reviendrai pourquoi. Je le fais maintenant. Donc ce sujet de la conjonction de l'homme et de la femme, nous avons à en poser autrement les arches. Et je continue par ma voix aphoristique. Si c'est au désir et à la jouissance qu'il nous faut nous référer, nous dirons que me proposer comme désirant, héros, c'est me proposer comme manque de A, et que ce qu'il s'agit de soutenir dans notre propos est ceci, c'est que c'est par cette voie que j'ouvre la porte à la jouissance de mon être. Le caractère aporique de cette position, je pense, ne peut manquer de vous échapper, de vous apparaître, ne peut pas vous échapper. Mais il y a quelques pas de plus à faire. Le caractère aphorique, et je besoin même de le souligner au passage, j'y reviens tout de même. Car, je pense que vous avez déjà saisi, parce que je vous l'ai dit depuis longtemps, que si c'est au niveau de l'héroïne que je suis, que j'ouvre la porte à la jouissance de mon être, il est bien clair que le plus proche déclin qui s'offre à cette entreprise, c'est que je sois apprécié comme héroménos, c'est-à-dire comme aimable, ce qui, sans fatuité, ne manque pas d'arriver. Mais où se lit déjà que quelque chose est loupé dans l'affaire. Ceci n'est pas aphoristique. C'est déjà un commentaire. J'ai cru devoir le faire pour deux raisons. D'abord parce que j'ai fait une espèce de petit lapsus à double négation, ce qui devait m'avertir de quelque chose. Deuxièmement, que j'ai cru entrevoir le miracle de l'incompréhension briller sur certaines filles. Je continue. Toute exigence de petit a sur la voie de cette entreprise, disons, puisque j'ai pris la perspective androcentrique de rencontrer la femme, ne peut que déclencher l'angoisse de l'autre. Justement en ceci, que je ne le fais plus que A, que mon désir le haït. Et ici, mon petit circuit d'aphorisme se mord la queue. C'est bien pour ça que seul l'amour, sublimation, permet à la jouissance, pour me répéter, de condescendre au désir. Que voilà de nobles propos. Vous voyez que je ne crains pas le ridicule. Ça vous a un petit air de prêche dont, évidemment, chaque fois qu'on avance dans ce terrain, on ne manque pas de courir le risque. Mais il semble tout de même que pour bien rire, vous preniez votre temps. Je ne saurais que vous en remercier. Et je repars. Je ne repartirai aujourd'hui que pour un court instant. Mais laissez-moi encore faire quelques petits pas. Car c'est sur cette même voie que je viens de parcourir sur un air qui vous a comme ça un petit air d'héroïsme que nous pourrons nous avancer dans le sens contraire en constatant curieusement, une fois de plus confirmant la non-réversibilité de ces parcours, que nous allons voir surgir quelque chose qui vous apparaîtra peut-être d'un ton moins conquérant. Ce que l'autre peut, nécessairement, cette voix qui condescend à mon désir, ce qu'il veut, même s'il ne sait pas du tout ce qu'il veut, c'est pourtant nécessairement mon angoisse. Car il ne suffit pas de dire que la femme, pour la nommer, surmonte la sienne par amour, nous y reviendrons. C'est à voir. Procédant par la voie que j'ai choisie aujourd'hui, je laisse encore de côté, ce sera pour la prochaine fois, comment se définissent les partenaires au départ? L'ordre des choses dans lesquelles nous nous déplaçons
implique toujours que ce soit ainsi, que nous prenions les choses en route, et même quelquefois à l'arrivée. Nous ne pouvons pas les prendre au départ. Quoi qu'il en soit, c'est en tant qu'elle veut ma jouissance, c'est-à-dire jouir de moi. Ça ne peut pas avoir d'autre sens. Que la femme suscite mon angoisse. Et ceci, pour la raison très simple, inscrite depuis longtemps dans notre théorie, c'est que il n'y a de désir réalisable sur la voie où nous le situons qu'impliquant la castration. C'est dans la mesure où il s'agit de jouissance, c'est-à-dire où c'est à mon être que qu'elle en veut, que la femme ne peut l'atteindre qu'à me châtrer. Que ceci ne vous conduise, je parle de la partie masculine de l'histoire, à nulle résignation quant aux effets toujours manifestes de cette vérité première, dans ce qu'on appelle la vie conjugale. Car la définition d'une ananke première n'a absolument rien à faire avec ces incidences accidentelles. N'en reste pas moins qu'on clarifie beaucoup les choses à l'articuler proprement. Or, l'articuler comme je viens de le faire, encore que ce soit recouvrir l'expérience de la façon la plus manifeste, est justement ce qui frise le danger que je viens de signaler à plusieurs reprises, ainsi voir qu'on y voit ce qu'on appelle dans le langage courant une fatalité. Ce qui voudrait dire que c'est écrit. Pas parce que je le dis qu'il faut penser que ce soit écrit. Aussi bien si je l'écrivais, y mettrais-je plus de formes. Et ces formes consistent justement à entrer dans le détail, c'est-à-dire à dire le pourquoi. Supposons ce qui saute aux yeux. Qu'en référence
ce qui fait la clé de cette fonction de l'objet du désir. La femme, ce qui est bien évident, ne manque de rien. Parce qu'on aurait tout à fait tort. De considérer que le pénis naïde soit un dernier terme. Je vous ai déjà annoncé que ce serait là l'originalité sur ce point de ce que j'essaie cette année d'avancer devant vous. Le fait qu'elle n'ait sur ce point rien à désirer, et peut-être même essaierai-je d'articuler très très précisément anatomiquement pourquoi, dans cette affaire de l'analogie. Clitoris, pénis, est loin d'être absolument fondé. Un clitoris n'est pas simplement un plus petit pénis. C'est une part du pénis. Ça correspond au corps caverneux et à rien d'autre. Or, un pénis, que je sache, sauf chez l'hypospadias, ne se limite pas au corps caverneux. Ceci est une parenthèse. Le fait de n'avoir rien à désirer sur le chemin de la jouissance ne règle pas assurément pour elle la question du désir. Justement, dans la mesure où la fonction du petit a, pour elle, comme pour nous, joue tout son rôle. Mais quand même, du désir, ça la simplifie beaucoup. Je dis pour elle, pas pour nous, en présence de leur désir. Mais enfin, de s'intéresser à l'objet comme objet de notre désir, ça leur fait beaucoup moins de complications. L'heure s'avance. Je laisse les choses au point où j'ai pu les mener. Je pense que ce point est suffisamment alléchant pour que beaucoup de mes auditeurs désirent en connaître la prochaine fois la suite. Pour vous en donner quelques prémices. Et vous annoncer ce que le fait que j'entends ramener les choses au niveau de la fonction de la femme en tant qu'elle peut nous permettre de voir plus loin dans un certain niveau dans l'expérience de l'analyse. Je vous dirais que si on peut donner un titre à ce que j'énoncerai la prochaine fois, ce serait quelque chose comme des rapports de la femme comme psychanalyste avec la position de Don Juan.